Aujourd'hui, une très belle lecture, deux romans. En fait, il s'agit d'une duologie. L'autrice Josée Ouimet nous présente le dernier volet de sa duologie, Le Voyage de l'espoir, un roman captivant qui parle de guerre, d'amour, d'amitié, mais de rêve, d'espoir, de résilience, avec surtout des femmes au cœur de l'intrigue. Madame Ouimet a accepté notre invitation. Bonjour, Madame Ouimet.
Bonjour, Madame Landry.
Comment ça va?
Ça va très, très bien, merci. L'hiver, si le mois de février peut arriver, peut finir, ça va être encore mieux.
Ben, il reste une semaine, on se croise les doigts, là. Oui, oui, oui. Madame Ouimet, je vous le mentionnais avant qu'on entre en onde, j'ai adoré votre duologie, Le Voyage de l'espoir. Quelle belle histoire. Et dans ce deuxième tome, on retrouve Edith et son jeune frère Édouard, qui vivent maintenant à Montréal pour échapper aux horreurs de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. On se retrouve au début des années 40. À l'époque, de jeunes Britanniques étaient envoyés à l'étranger sans leurs parents. On a mis en place le programme Pied Piper. C'est un programme qui a bel et bien existé, Madame Ouimet.
Et tout à fait, oui, parce que moi, je suis une fan inconditionnelle du grand stratège qu'a été M. Churchill. Et il avait mis sur pied beaucoup d'opérations, opérations Fish, entre autres, pour mettre en sécurité les biens de la couronne. Il y avait eu aussi une autre opération qui avait fait en sorte qu'il ne voulait pas garder intramuros des réfugiés politiques ou des Allemands qui étaient prisonniers. Donc, il avait envoyé tout ça. Donc, le Canada a été un petit peu tributaire de ces projets-là, dont le projet Pied Piper qui faisait référence au conte Le joueur de pipeau, vous savez, là, d'Hamelin. Oui, c'est ça. Alors, il voulait préserver la culture parce qu'il disait, si on ne se bat pas pour notre culture et nos enfants, pourquoi nous battons-nous? Alors, les enfants, pour lui, représentaient une valeur importante à préserver contre l'invasion allemande qui se faisait de plus en plus pressante. Oui.
Donc, pour sauver les enfants, ils devenaient comme des réfugiés. Et là, il y en a beaucoup qui sont venus à Montréal, savez-vous?
Le nombre, je ne l'ai pas exactement, parce que le plus grand nombre a été placé vraiment du côté de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, parce que c'était quand même des anglophones.
Oui.
Il y en a eu en Colombie-Britannique aussi, il y en a eu beaucoup à Toronto. À Montréal, il y en a quand même eu quelques-uns. Mais ça, c'est une partie, dans le fond, l'histoire étant moins précise, c'est la partie fictive un peu plus que j'ai utilisé là-dedans, parce que lorsqu'on écrit un roman semblable à ça, c'est vraiment un tissage de deux laines, un tricot de deux laines, parce qu'on a le schéma narratif où est-ce que tout ce qui est historique est authentique là-dedans.
Oui.
Alors, toute l'histoire vraiment de cette évacuation. Et il y a des personnages qui sont bien entendu fictifs, mais crédibles dans les situations données dans la narration. Alors, on fait du jacquard un peu, là, on tricote avec deux laines.
Oui, hein? Quel beau personnage, celui d'Edith et son jeune frère, Édouard, qui doivent, malgré eux, tenter de se refaire une vie, même s'il y a toujours l'espoir là, de retourner en Angleterre et de retrouver leurs parents, bien sûr.
Oui, dans le fond, le paradoxe dans tout ça, c'est que les parents voulaient sauver leurs enfants et les enfants voulaient nécessairement obéir, parce que c'est une époque où est-ce que aussi l'obéissance des enfants n'avait rien de comparable à ce qui est aujourd'hui. Alors, les enfants se pliaient aux exigences des parents. Ce paradoxe-là était davantage parce qu'on se retrouve avec, oui, des jeunes enfants qui s'en vont dans un milieu complètement différent, complètement inconnu, et aussi avec la langue française. Moi, j'aime beaucoup mettre aussi de l'avant la résilience des enfants. On voit à Gaza des enfants qui jouent encore avec des ballons.
Ouais.
Même si c'est... vous comprenez le principe?
C'est
les enfants
guerre.
Vivent
oui,
le
oui.
moment présent, même dans des situations de difficulté, de guerre et tout. Et les femmes tiennent à bout de bras tout ça. Tandis que les hommes souvent vont combattre. Les femmes ont toujours tenu à bout de bras l'éducation, continuer à prendre soin des enfants, faire à manger, faire la lessive. On les voit, les femmes à Gaza encore, là, qui étendent leur linge sur des cordes improvisées. Alors moi, j'aimais essayer de montrer comment la jeune Edith et Édouard sont résilients, vont essayer de s'acclimater, parce qu'on parle vraiment de climats différents, mais toujours en ayant, comme vous dites, est-ce que je peux m'investir dans cette nouvelle vie-là, en sachant très bien que je vais être obligée de retourner.
Ouais. Ils sont hébergés par une amie de leur mère à Montréal. Ils s'acclimatent quand même bien au sein de la famille avec des amis. Puis il y a une belle intrigue amoureuse là, aussi concernant Edith. Il y a plusieurs prétendants autour d'elle. Je pense à Olivier, mais je pense à Christian aussi, là.
Oui. C'est vraiment... J'ai d'abord et avant tout, avec Urtubis, un contrat d'écrire des romans d'amour. Bien qu'ils soient historiques, il faut que ce soit des... Il faut vraiment qu'il y ait des intrigues amoureuses dedans. Alors, j'aimais aussi présenter celui... Moi, j'aime les personnages qui n'ont rien à perdre.
Ah.
Alors, tout est possible pour eux. Donc, Christian, c'est un... Il est issu d'un milieu qui
plus est
pas
bourgeois,
comme celui d'Olivier, ouais. Un peu plus pauvre. Alors, ça crée des... Une débrouillardise nécessairement. Donc, c'est un garçon qui est capable, qui est ouvert, qui est curieux, qui est capable de faire mêler une chose, de s'investir aussi, et qui est proche de ce qu'il a, du peu d'acquis qu'il a.
Mm-hmm.
Alors, comparativement à Olivier, qui, lui, c'est plus facile et tout, hein.
Ah ben oui, parce que lui, il disait pour être médecin. Oui, c'est ça.
Oui. Et il y a Hubert Vincelette aussi, qui est un autre type...
C'est tout un personnage, là.
Ah oui, mais c'était des personnages comme ça. C'était vrai, Mme Landry, parce que à l'époque, dans les années de guerre, 1940-45, au Canada, ou en tout cas au Québec, là, de façon plus précise, il y avait énormément de délinquants. Il y avait des gangs de rue. Il y avait du marché noir. Il y avait de l'intimidation. Alors, c'est vous pouvez chercher dans les livres du sport, c'est tout à fait vrai. Donc, ça fait partie du schéma narratif, ça.
Ah.
Ça fait partie de l'authenticité. Du récit.
Il y a un certain moment, Denis, je me suis dit, peut-être qu'Édith va rester à Montréal.
Oui.
Hein? Je ne vais pas tout dévoiler là, comment ça se termine là, quand même. Les gens ont peut-être une petite idée, mais oui. De savoir de quelle façon ça se produit. Là.
Le titre en dit long, le sous-titre « Je reviendrai » en dit long, parce que dans le fond, il y a une dualité dans ce titre-là, parce que je reviendrai en Angleterre ou je reviendrai au Canada.
Ah, voilà.
Parce que c'est une duologie. Hein. Mais faut pas, moi, ce qui m'a un peu bouleversée dans cette histoire-là, c'est imaginer les enfants qui avaient peut-être 3 ans, 4 ans, qui ont été placés dans ces familles-là. Et au bout de 5 ans, alors qu'ils ont 8 ans, 9 ans, on leur dit « Non, c'est pas ta famille, retourne en Angleterre ». Dans un pays en ruine, dans des peut-être qu'ils sont orphelins, ils ne le savent pas.
Oui.
Alors, c'est ce qui m'a le plus motivé à écrire cette histoire-là. C'est comment, même si tu es un enfant, la fin du monde arrive deux fois.
Même vrai.
Si tu n'es pas conscient.
Mm-hmm.
Et pour la jeune Édith, ben, c'est aussi une fin du monde, parce que c'était une première fin du monde en quittant. Et parce que à chaque fois qu'on part d'un endroit, c'est toujours un deuil. À chaque fois qu'on quitte, c'est toujours un deuil.
Mmh.
Alors, moi, je trouvais que c'était important de mentionner que l'adaptation, comme vous le disiez si bien au début, la résilience, l'acclimatation, essayer de se bâtir un présent, parce qu'on ne peut pas parler de bâtir d'avenir, là.
Non, vraiment. C'est le présent. Oui.
C'est le présent. Oui. Alors, on est toujours dans un moment présent parce qu'on ne sait jamais demain de quoi ça se passerait. Et je pense que à quelque part, quand on s'y soumet à cette idée-là, on est heureux, comme les enfants.
C'est une magnifique duologie que je propose aux gens. Le voyage de l'espoir, le 1, c'était Loin des bombes. Le 2e qui vient de sortir, Je reviendrai, aux éditions Urtubis. Livre de 350 pages, 26,95 $ avec la relâche qui s'en vient. Quelle belle lecture à proposer aux auditeurs. José Ouimet, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'était fort intéressant. Merci de nous offrir ces belles histoires là qui font en sorte qu'on décroche complètement de notre quotidien. Merci, Mme Ouimet.
C'est très gentil. Merci infiniment.
À une prochaine. Vous travaillez sur d'autres projets, j'imagine, là?
Ah ben oui, c'est déjà commencé, là, c'est en processus d'écriture. Et puis, ça se passe en 1758 avec l'université. Oui, puis il va y avoir des Acadiens. Mais mon mari, c'est un Bourque.
Ah, bon, parfait. Bon, on saura certainement s'en reparler. Merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Journée.